C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons à Villefranche avec Anne. La dernière fois que j'étais ici, c'était comme jeune retraité. Je suis moins jeune retraité aujourd'hui ou jeune retraité depuis plus longtemps. Tout dépend comment on veut regarder les choses. C'était en 2012 et la dernière fois que j'ai prêché ici, c'était en 2008. 10 ans. Les années filent à la vitesse grand V. En tout cas, avec Anne, c'est un des bonheurs que nous avons dans cette période de la retraite, de pouvoir visiter des églises, de retrouver des amis et de voir l'œuvre de Dieu se poursuivre en divers lieux, comme ici. La communion dont nous jouissons en Christ est un privilège précieux pour lequel nous sommes très reconnaissants. Nos premiers contacts avec Anne, avec l'église de Villefranche, c'était en 1971. Donc les années ont filé, 47 ans. C'était le début d'une période où nous venions alors à peu près une fois par mois pour visiter l'église. Nous venions depuis Montpellier où je faisais mon stage pastoral avec André Loverini. J'aimerais évoquer ce matin le rôle particulier de toutes les églises dispersées. Nous revenons de notre pastorale à Évian. On était une soixantaine d'églises représentées et d'œuvres pionnières. Et il y a ainsi un peu partout, en France, en Suisse, en Belgique, mais dans le monde entier, tout plein de frères et sœurs d'églises diverses qui ont à cœur l'œuvre de Dieu. Nous sommes, vous ici, nous à Bienne, engagés dans le témoignage pour l'Évangile. Nous sommes convaincus que ce qui peut arriver de meilleur à n'importe qui, jeune ou vieux, c'est de rencontrer Jésus. Et nous sommes engagés dans ce témoignage. Il y a une multitude de frères et sœurs de partout dans le monde qui développent toutes sortes de moyens, qui cherchent des occasions approprié pour amener les personnes à rencontrer Jésus, à saisir l'évangile du salut, l'évangile du pardon et d'une vie nouvelle qui vaut la peine d'être vécue, comme j'y ai été amené moi-même en 1964. J'ai repensé au début de ma vie chrétienne suite au décès de Billy Graham. C'était le 21 février de cette année. Il est l'un de ceux qui m'ont aidé à saisir l'Évangile, et cela compte beaucoup pour moi. Le 11 février 1964, j'étais à une réunion d'évangélisation où on projetait un film de l'association Billy Graham, Cœur Rebelle. J'avais jusque-là grandi dans l'église baptiste de Nîmes. J'allais au groupe de jeunes, je suivais les réunions, je me comportais de manière, autant que ma mémoire ne me joue pas des tours, de manière à peu près correcte. Je suivais le mouvement, mais sans vraie conviction et sans réel intérêt spirituel. Et en voyant ce film, je me suis retrouvé dans l'un des personnages du film, qui se croyait bien comme il était, honnête et gentil, alors que dans son cœur, il n'était pas vraiment heureux, mais il peinait à le reconnaître. J'ai compris par le message et par les textes bibliques entendus que j'avais, moi aussi, un cœur rebelle, et que je devais faire la paix avec Dieu. J'avais un cœur orgueilleux qui hésitait à reconnaître cela et à chercher ce pardon. Après cette soirée d'évangélisation, je suis revenu à la maison, je me suis mis à genoux dans ma chambre, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et tout ému et joyeux d'avoir fait ce pas, je suis allé réveiller les parents pour leur dire ce qui venait de se passer dans ma vie. En juin de cette même année, 64, j'étais baptisé avec d'autres jeunes qui s'étaient convertis lors du camp de Pâques que l'église de Nîmes organisait régulièrement. La nouvelle du décès de Billy Graham m'a donc fait repenser au début de ma vie chrétienne et je suis très reconnaissant envers tous ceux, et ils sont nombreux, qui m'ont parlé de Jésus, qui m'ont donné envie de le connaître, de le suivre, de lire et de méditer sa parole et de faire ma part aussi pour diffuser la bonne nouvelle. Ceci étant dit, j'aimerais suivre ses pensées sur le témoignage à donner en méditant sur deux passages dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons lire dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 1 à 7, puis dans le chapitre 3, les versets 8 à 12. Éphésiens 2, 1 à 7. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature, nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Et puis au chapitre 3, verset 8, Paul déclare « Je suis le moindre de tous les croyants. Pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la richesse infinie du Christ. Je dois mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret. Lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses aspects. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans l'union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Parce que là, à la lecture de ces beaux passages de l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul dit ici des choses intéressantes pour saisir l'importance de donner un bon témoignage, visible et accessible à nos contemporains. La lettre aux Éphésiens commence par un descriptif fulgurant du plan de la rédemption, de ce que Dieu a préparé et accompli pour nous sauver par Jésus. Depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, Paul décrit l'action merveilleuse de la grâce de Dieu et l'amour qu'il a manifesté inlassablement pour que le salut soit offert à des pécheurs tels que nous. Quel souffle dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Quel tableau, quelle fresque, pour reprendre l'expression de Paul, pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu envers nous. Paul voulait que les croyants d'Éphèse s'émerveillent devant les projets pleins de bonté que Dieu a formés pour nous et leur réalisation parfaite en Christ. Après cette description magistrale à la gloire de la grâce de Dieu, le chapitre 2 nous interpelle. Que serions-nous devenus si Dieu ne nous avait pas manifesté sans mesure son immense bonté? Éphésiens 2, 1 à 8 décrit bien notre situation avant que Dieu intervienne dans nos vies. Autrefois, nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Nous étions sans Christ, sans espérance, sans Dieu, des enfants de colère, comme les autres. Nous étions destinés à subir le juste châtiment que méritaient nos péchés, nos désobéissances. On sent bien que l'apôtre Paul frémit en repensant à ce qu'il était avant et aux conséquences terribles que cela aurait pu avoir pour lui. Et nous frémissons avec lui. Sa description de notre autrefois sans Dieu et du risque de perdition éternelle vers lequel nous allions m'impressionne. Notre situation était dramatique. Il faut prendre la mesure de ce fait. Et comment apprécier la grandeur du salut sans réaliser la gravité et l'horreur de la perdition? L'enfer est une réalité épouvantable, décrite dans l'Apocalypse et dans d'autres passages de la Bible. Y repenser devrait nous faire bien plus goûter la bonté de Dieu et l'efficacité du salut, l'inestimable bienfait du pardon que Dieu nous accorde en Christ. On dit que quand on passe tout près de la mort, on a un regard différent sur la vie. C'est vrai. C'est ce qui m'est arrivé l'année même de ma conversion. J'étais près de mes 18 ans. Je m'étais converti en février, baptisé en juin. Et là, en septembre, je revenais de la convention baptiste de Cours, la première convention à laquelle j'avais assisté. J'étais à un mois de mes 18 ans. Et au retour de la convention, je décide de prendre une douche pour effacer les fatigues du voyage. Et j'ai failli y rester, passer de la douche à l'éternité. Un mauvais fonctionnement d'un ancien chauffe-eau à gaz m'a amené à l'asphyxie. J'ai été sauvé de justesse par le geste d'une parente qui a eu la présence d'esprit de briser la vitre de la salle de bain avant d'aller chercher du secours. Et c'est peut-être le geste qui m'a sauvé la vie. Elle a senti le gaz, elle a dit « il faut d'abord libérer cette pièce du gaz et chercher de l'aide ». Il y avait deux soldats qui passaient dans la rue, et elle les a appelés, ils sont passés par la fenêtre, ils m'ont sorti, appelé les secours. Et un docteur et des pompiers appelés d'urgence ont fait les gestes qu'il fallait, les gestes qui sauvent une vie. Et je suis revenu apparemment de loin. J'aurais pu partir sans m'en rendre compte à moins de 18 ans. En 1964, j'ai donc été sauvé deux fois, spirituellement et physiquement, doublement gracié. J'ai alors été conduit à réfléchir à servir Dieu à plein temps, une pensée qui a mûri en moi durant les deux années suivantes, jusqu'à ce que je décide de suivre une formation en vue du ministère pastoral. Et j'ai été encouragé en cela par quelqu'un que plusieurs d'entre vous connaissent, ont bien connu, Guy Appéret. Je n'ai jamais regretté cette orientation de ma vie. Ainsi, bien plus grave que la mort physique, c'est le risque d'être perdu pour toujours qui fait réfléchir. Mais grâce à Dieu, on peut échapper à la perdition et vivre désormais une vie pleine au bénéfice de son amour généreux. C'est bouleversant. La bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel, dit Paul dans Éphésiens 2, qu'il est intervenu pour nous sauver. Longtemps avant que nous soyons capables de comprendre la gravité de notre perdition, Dieu avait décidé, préparé, réalisé le plan du salut pour des pécheurs tels que nous. Il déclare, nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, mais Dieu nous a rendus à la vie. Nous étions des fils rebelles, mais Dieu nous a pardonnés, adoptés. Il a fait de nous ses héritiers. Cependant, le plan de Dieu ne s'arrête pas là. Une fois convertis et baptisés, le projet de Dieu pour nous va plus loin. Notre texte précise une intention divine particulière. Éphésiens 2:7 dit que Dieu a fait tout cela afin de démontrer la richesse surabondante de sa grâce. Au chapitre 3, verset 9, il veut mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan. Et il ajoute, chapitre 3, versets 10 et 11, que Dieu a fait tout cela afin qu'aujourd'hui, les autorités célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Le Seigneur Jésus pensait aussi à cela quand dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, versets 20 à 23, il prie son Père céleste et lui demande que l'unité des croyants soit manifeste, évidente, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ces versets affirment que Dieu veut justifier la grandeur et l'efficacité de son œuvre, devant les hommes comme devant les anges. Il veut prouver par les croyants, par vous et moi, quelque chose de la richesse extraordinaire de sa grâce. Vous et moi, nous sommes donc une démonstration de qui est Dieu et de l'œuvre qu'il réalise pour le bien de ceux qui croient en lui. Beaucoup de gens, et vous en rencontrez peut-être, disent ne croire que ce qu'ils voient. Ils veulent toucher, sentir, goûter. Et c'est comme si Dieu voulait les prendre au mot, par l'Église, leur donner de voir, de toucher, de sentir les effets concrets du salut, en particulier par l'amour que l'Église peut vivre et manifester entre ceux qui en font partie, comme autour d'elle. Nous sommes appelés à être une sorte de vitrine d'exposition permanente en l'honneur de Dieu. En préparant ce message, l'emploi du mot vitrine m'a rappelé quelques souvenirs. Pendant plus de 30 ans, j'allais à Paris en novembre pour les réunions du conseil de l'association et pour le centre évangélique. André Ravassa était de la partie pendant bien des années. Je logeais toujours chez des amis qui habitent à Colombes, à l'ouest de Paris, et je devais prendre le train à la gare Saint-Lazare pour les rejoindre. Tout près de la gare Saint-Lazare, si vous ne le savez pas, il y a les galeries Lafayette. Il m'arrivait, avant d'aller prendre mon train, de faire un petit détour pour passer devant ce grand magasin. C'était la mi-novembre. Et il y avait toujours une foule d'enfants et de parents venus admirer les vitrines de Noël des galeries Lafayette. Les décorateurs du magasin font chaque année des merveilles pour éblouir les passants, leur donner des idées de cadeaux dans des décors féeriques qui font rêver petits et grands. Une vitrine pour un magasin, ça compte. On en voit de toutes les sortes. Certaines sont faites avec goût, elles captent l'attention. D'autres sont si pâles, si tristes, si poussiéreuses qu'on passe sans les voir. Ou on les voit une fois, mais on ne les regarde pas d'eux. C'est tout un art de composer une vitrine, et je dis bien composer. Il faut penser à toutes sortes de détails et d'équilibres entre les formes, les couleurs, les lumières, la mise en place des objets, leur variété, ni trop, ni trop peu. Il faut d'abord donner l'envie de regarder, qui sera suivie, on l'espère, de l'envie d'entrer pour voir de plus près ce que le magasin offre, et si l'envie d'acheter est à la portée de notre porte-monnaie. Il y a des magasins comme les Galeries Lafayette qui dépensent des fortunes pour de belles vitrines, pas seulement pour Noël, mais toute l'année. Il faut appâter le client, provoquer chez lui une démangeaison au niveau du portefeuille ou de la carte de crédit. La réussite commerciale du magasin dépend en partie de ses vitrines. Quand nous avons à bien notre modeste stand biblique au marché ou notre stand de Noël sous le porche de l'église, là aussi, avec nos petits moyens, on essaie de faire preuve de goût en préparant le ou les tables pour donner si possible envie aux passants de s'approcher pour voir ce que nous offrons en nourriture, de bons petits gâteaux, et en littérature aussi. Mais au-delà de ces trop rares occasions de tenir un stand à l'extérieur, il faut savoir que les vitrines du Seigneur existent dans l'œuvre de Dieu. Votre Église est l'une d'entre elles au service de la mise en valeur de la grâce de Dieu à Villefranche, comme la nôtre l'est aussi à Bienne. On ne fait pas dans le luxe, mais on doit faire si possible dans le vrai. Pour rendre visible un amour fraternel sincère, un engagement sans hypocrisie, avec un sourire qui n'a rien de commercial. Dans cette vitrine, pas de faux semblants, ni d'expression de sentiments amicaux et fraternels qu'on n'éprouverait pas. Il faut du vrai. Et déjà à l'accueil, lors de notre pastorale, Chris Short avait un atelier sur l'accueil et il a dit ceci, il nous a demandé à partir de combien de temps une personne peut décider de revenir dans une église, une personne nouvelle. Il dit c'est dans les 5 premières minutes. C'est par l'accueil qu'elle aura envie de revenir. Je pensais pas que c'était aussi sec que ça, mais si, si. C'est ce que l'apôtre Pierre disait à ses lecteurs. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Et ardemment, ça se voit. Ou bien ça ne se voit pas. Nous n'avons pas l'habitude de penser aux églises locales en termes de vitrines d'exposition. Mais ce que dit la Bible le laisse entendre clairement. J'ai repensé à... On était au Québec et on passait en voiture devant des vitrines derrière laquelle il y avait toute une flopée de voitures. C'est un concessionnaire. Et au-dessus, il y avait une grande pancarte « Salle de montre » au lieu de « Salle d'exposition ». C'est des lieux où on montre les voitures. Ça, c'est typiquement québécois. Mais nous sommes ici une salle de montre, une salle d'exposition. Ainsi, il y avait non seulement à Éphèse, mais partout dans l'Empire, un témoignage chrétien qui existait, c'est-à-dire une exposition divine en cours, ouverte au regard de tous, pour montrer, dans le concret, ce que Dieu offre de meilleur, c'est-à-dire des hommes et des femmes, transformé par sa grâce, qu'il fait bon connaître, qu'il fait bon côtoyer. Des stands à Villefranche, à Bienne, des dizaines de milliers d'autres sur toute la terre, et peut-être d'autres ici aussi, localement. Ici comme partout, Dieu attend des églises locales qu'elles mettent en valeur sa grâce devant le monde. Qu'elles le fassent sans prétention, mais d'une manière solide et véritable. Des lieux où l'amour de Dieu se rend visible, déjà par la qualité de l'accueil, par l'écoute, par le service souriant. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Si la connaissance de l'Évangile a transformé notre existence, en nous donnant une espérance sûre, nous savons bien que les autres ont aussi besoin de ce même évangile salutaire. Il y a un cantique que j'aimais beaucoup dans Les ailes de la foi, « Si vous saviez quel sauveur je possède ». Il y a une strophe qui dit « Ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous, mon sauveur vous aime. Ah, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. » Après la mort de Billy Graham, j'ai cherché sur YouTube des occasions où il s'est adressé à la France, entre autres, et il y avait quelques minutes du journal de TF1 avec PPDA qui a interviewé Billy Graham lors de Paris-Bercy 86. Et PPDA a dit à Billy Graham, est-ce que vous pouvez en 2 minutes nous prêcher l'essentiel de l'évangile que vous annoncez? Et il s'est levé. Et le résumé de son message est, Dieu vous aime. Vous ne le savez pas encore, mais vous avez besoin de lui. Dieu vous aime. Et Jésus-Christ est venu pour nous le prouver. C'est impressionnant. Moins de 2 minutes. Et l'essentiel du message était passé. Ce message doit être transmis, partagé avec nos amis, avec nos proches, avec nos voisins, avec ceux que nous côtoyons. Et pas forcément que par des paroles, hein. Mais déjà par une démonstration de vie, d'amitié, de serviabilité, qui donne du crédit aux paroles, quand ces paroles ont l'occasion de suivre les actes. Et c'est mieux dans ce sens. Quand les paroles suivent les actes qui rendent les paroles convaincantes. Paul disait que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens 4, 5. J'ai connu à Nîmes un représentant de commerce, un chrétien, membre de notre église, qui passait sa vie, bien sûr, dans sa voiture, et qui s'énervait facilement au sujet des autres conducteurs, maladroits. Et il avait inscrit ce verset sur son tableau de bord. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il disait que ça l'aidait à ne pas s'emporter trop souvent. C'est une idée, hein. Si vous avez un problème d'énervement au volant, mettez que votre douceur soit connue de tous les hommes. Les chrétiens doivent prouver que Jésus est bienvenu chercher sauver ce qui était perdu. Pour transformer effectivement nos existences de façon radicale, mais aussi de façon heureuse. Pour que même dans une société en crise, son œuvre d'amour se manifeste, qu'elle s'accomplisse effectivement, efficacement, solidement, durablement. C'est un défi que de montrer cela. La Suisse abrite plusieurs organismes de l'ONU, ces étranges Nations Unies qui font régulièrement la démonstration de leur désunion, de leur rivalité et de l'inefficacité de certaines de leurs résolutions, comme pour la Syrie en ce moment. J'ai entendu un ancien délégué de la Croix-Rouge suisse qui disait que dans les relations internationales, on est parfois obligé de serrer la main du diable pour trouver des solutions de paix et venir à bout de certaines crises. Je comprenais ce qu'il disait dans son contexte, mais ce genre de compromis nécessaire dit bien l'état de notre monde, où le mal tient tellement le haut du pavé qu'on est obligé de faire avec, de pactiser avec les dictateurs aux mains souillées de sang, de satisfaire leurs exigences pour obtenir d'eux la permission d'action humanitaire dans leur pays. C'est triste. Mais les passages lus dans l'Épître aux Éphésiens nous invitent à être des chrétiens unis, bien différents des Nations Unies, pour faire une autre démonstration, pour prouver que Dieu réussit à établir, là où on le laisse agir, une réelle fraternité, une société d'hommes et de femmes, jeunes et vieux, unis les uns aux autres, malgré les barrières qui pourraient les séparer, l'âge, les goûts, les langues, les nationalités, les races, unis par-dessus les frontières, unis par le Seigneur et sa parole, par un amour fraternel sincère et un même esprit de service, unis malgré tout, parce que quelque chose d'inébranlable et d'infiniment supérieur motive une telle unité. L'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. On le voit, le Seigneur est très ambitieux pour nous. Son projet à vue humaine semble pourtant irréaliste. Quand on lit ce qui se passait dans les églises du premier siècle, avec les divisions, les disputes, les mauvaises attitudes de certains croyants, on mesure la quasi-folie d'un tel projet d'exposition divine. Mais Dieu persiste, il insiste, il le veut. L'Église de Jésus-Christ, par l'intermédiaire des églises locales, doit apporter la preuve que Christ n'est pas venu pour rien, que sa croix n'a pas été un martyr inutile, que le salut n'est pas un thème théologique sans conséquences pratiques et heureuses dans la vie des chrétiens. L'Église doit attester que Dieu sauve vraiment en Jésus-Christ, qu'il peut aider quiconque croit en lui, l'aider à surmonter la force du mal pour emporter des victoires sur le péché qui nous enveloppe si facilement, comme le dit l'Épître aux Hébreux, à surmonter vaillamment des difficultés qui, d'habitude, brisent, découragent, divisent ou arrêtent les hommes dans leur marche en avant. Dieu veut vraiment que l'Église soit regardée, qu'on l'examine, qu'on la juge même, comme on juge un arbre à ses fruits. Il faut donc nous attendre à des regards scrutateurs, à être en tant que chrétien, en tant qu'Église, dévisagé de face ou de travers, dévisagé à la dérobée ou de manière appuyée. Dieu le veut ainsi. L'Église doit donc faire la démonstration vivante que l'Évangile, ce n'est pas du toc, c'est du vrai. Elle doit être une démonstration lisible, crédible, de l'efficacité de la grâce de Dieu. C'est aussi le sens de ce que dit Paul aux Corinthiens. Vous êtes une lettre de Christ, lue et connue de tous les hommes. Il faut bien nous mettre en tête, nous chrétiens, que le premier évangile que les gens vont lire de l'extérieur, c'est nous. Nos actes, nos façons d'être, notre façon d'être voisin, d'être collaborateur au travail. Le premier évangile qu'ils vont lire, c'est nous. C'est l'intention divine à notre égard. Nous n'existons pas pour vivre en vase clos, repliés sur nous-mêmes, mais pour que nous vivions ensemble, ce que nous vivons ensemble puisse avoir des répercussions au dehors, par notre façon d'être au quotidien, par nos actes et nos paroles. Non seulement quand nous sommes ensemble, mais quand nous nous trouvons peut-être le seul chrétien, la seule chrétienne, au milieu d'une entreprise, au milieu d'un commerce, d'une école, d'un bâtiment, d'un locatif. Pierre le confirme, « Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et il ajoute, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » 1 Pierre 2, 11 et 12. L'Église est la seule organisation au monde qui existe, certes en faveur de ses membres, mais surtout en faveur de ses non-membres. Les atteindre. Leur prouver quelque chose de l'amour de Dieu. Pierre et Paul insistent donc en nous disant, attention, on nous regarde et c'est bien. C'est vrai que le témoignage chrétien n'est pas devenu plus facile de nos jours que du temps de Paul et Pierre. Et le diable ne manque pas de moyens pour troubler la démonstration, pour ternir autant que possible notre témoignage. Il trouve dans nos situations familiales ou dans les tensions qu'on peut vivre, dans notre contexte familial, professionnel, voire ecclésial, des occasions de nous pousser à commettre des faux pas, d'en dire une de trop, ou de garder un silence coupable quand il faudrait témoigner pour le Seigneur. Avec un adversaire aussi décidé que le nôtre, on sait que suivre le chemin étroit de l'Évangile et d'y persévérer, c'est un miracle. Tant de choses pourraient nous en détourner, mais Dieu intervient pour nous aider. Il ne nous abandonne pas dans la mêlée de ce monde. Il nous aime. Et c'est non seulement parce qu'il veut nous sauver de la perdition, mais parce qu'il veut aussi que d'autres entendent parler de lui et de son évangile par notre témoignage. D'où le sens de l'exposition que Dieu organise et qui ne dure pas que quelques jours hein, ou quelques mois comme certains salons ou foires qu'on connaît. Non, nous sommes une exposition permanente, très précieuse et très importante aux yeux de Dieu. Dieu a choisi de courir le risque de nous prendre comme concessionnaires de sa marque, celle du salut par grâce, offert gratuitement à tous ceux qui répondent à son appel. Concessionnaires de sa marque. Alors c'est vrai que les vitrines que nos églises offrent ne sont pas toujours aussi belles qu'on le voudrait. Nos capacités de témoignage, de démonstration sont marquées par diverses imperfections, diverses lacunes, parfois par des présentations maladroites, qui n'illustrent pas assez bien le contenu de la bonne nouvelle du salut et la nature si généreuse de la grâce de Dieu. Paul le reconnaît avec justesse, nous portons le trésor de l'Évangile dans des vases de terre. Le Seigneur a toujours fort à faire avec nous pour que nous ressemblions un peu mieux, un peu plus à notre Sauveur. Mais Dieu n'attend pas de nous un témoignage parfait. Il connaît nos limites. Il attend seulement que nous prenions à cœur et de bon cœur son projet d'exposition divine. Que nous pensions plus souvent, plus régulièrement au fait qu'on nous regarde, qu'on nous écoute et que c'est important pour donner à d'autres l'envie de rencontrer notre Seigneur Jésus. Et puis n'oublions pas qu'une formidable exposition finale se prépare, glorieuse, gigantesque, éternelle. Tous les mots sont faibles pour la décrire. Une exposition merveilleuse à l'échelle de Dieu, le maître de l'ouvrage et du temps, le producteur des trophées de la grâce. L'Apocalypse lève un coin du voile pour nous faire entrevoir le ciel et l'immense foule des rachetés du Seigneur assemblés devant le trône divin. Oui, Dieu prépare ce grand jour. Il apporte les retouches nécessaires, il agit, construit, corrige, transforme vers le meilleur, et il poursuit son œuvre, et Paul nous le promet, il la rendra parfaite. Ce jour-là, il veut présenter à tout l'univers son Église, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et glorieuse. Il veut nous faire paraître, dit un autre texte, devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Quelle levée de rideau ce sera, quelle salle de montre, hein. Dans les visions que le Seigneur Jésus a accordées à l'apôtre Jean, il y a celle-ci, Apocalypse 7, 9 et 10. Je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Vous imaginez cela? Être là, quelque part, dans la foule immense? C'est prodigieux, hein? Quelle exposition ce sera. Savoir que Dieu prépare cela, qu'il avance avec ce projet me rassure, me réconforte, me réjouit et m'aide à rester positif face à l'avenir incertain. Dans ce cheminement vers cette éternité glorieuse, il peut y avoir encore des revers, des tristesses donc, des moments difficiles. Mais Dieu l'a promis. Il achèvera parfaitement l'œuvre qu'il a commencée et tout l'univers pourra la contempler. En attendant ce grand jour, que le Seigneur nous aide à bien soigner notre exposition locale. Celle qu'il nous a confiée comme représentant de sa marque, la marque d'amour et de vérité, là où il nous a placés. Et faisons-le avec joie et pour sa seule gloire. Amen.